En 1955, à sa manière, Sacha Guitry résumait l'affaire.
De 1894 à 1900, les Français eurent à choisir. L'affaire Dreyfus en fut la cause. Il fallait être Dreyfusard ou anti-Dreyfusard.
Une affaire un peu diluée dans les mémoires de l'après-guerre.
Les gens d'aujourd'hui ne peuvent pas se rendre compte de ce qu'a été l'affaire Dreyfus. Pendant toute ma prime jeunesse, je n'ai entendu parler que de cela.
Et dans l'esprit des gens d'aujourd'hui, 130 ans plus tard, que reste-t-il de l'héritage Dreyfusard ? C'est la trame de ce dernier épisode.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'affaire Dreyfus durera 12 ans. C'est le prototype de l'erreur judiciaire. Et on y puise deux enseignements. Le premier, c'est qu'il est bien facile de se tromper. Et le second, c'est que lorsqu'on s'est trompé, il est bien difficile de revenir en arrière et de reconnaître son erreur.
Au rayon des reliques Dreyfusardes, on trouve les galons du capitaine. Ces trois galons en trèfle, arrachés à la manche de son uniforme le 5 janvier 1895, sont exposés dans une vitrine du musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Un don de la famille Dreyfus.
Soldats, on dégrade un innocent !
Ce sont des traces matérielles de ce qui s'est passé il y a plus d'un siècle.
On déshonore un innocent !
Disons des empreintes tangibles et visibles de cette affaire Dreyfus. Mais que dire de l'héritage immatériel de cette profonde querelle française ? Comment s'est déployée la mémoire de l'affaire Dreyfus après la mort du capitaine ? C'est ce que vous allez découvrir dans cet ultime épisode.
Personne ne connaissait Dreyfus. Les uns étaient convaincus qu'il était coupable, les autres devinaient qu'il était innocent, mais aucun d'eux ne l'avait vu jamais.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Alfred Dreyfus, le combat de la République. Dixième épisode, l'héritage Dreyfusard.
Vous vous souvenez de l'affaire Dreyfus ?
Ah, l'affaire Dreyfus.
Ça a été un coup de tonnerre.
Un drame dans la vie des Français.
J'accuse.
On allait les uns contre les autres se battre à coups de poing.
L'affaire Dreyfus, on s'y battait pour une idée au-dessus de l'homme.
J'accuse.
Il représentait la justice, la vérité, l'innocent condamné.
Je suis innocent.
On veut partir en Paris, on veut partir de Paris. L'opinion était divisée.
Erreur judiciaire, justice, liberté, vérité. Encore aujourd'hui, nous avons beaucoup à apprendre sur l'affaire Dreyfus et de l'affaire Dreyfus.
Vous écoutez France Inter, il est 19h50.
Le récit débute sur les ondes de France Inter le 9 juin 1988.
Le journal Alain Bédouet, bonsoir.
Bonsoir.
Ce soir-là, à la une du journal de 19h, il est question d'une statue.
Une nouvelle statue dans le jardin des Tuileries, celle du capitaine Dreyfus, une statue de bronze réalisée par Tim, dessinateur mais aussi sculpteur, et inaugurée cet après-midi par Jack Lang. L'œuvre représente Dreyfus tenant un sabre brisé devant son visage. Elle est installée côté orangerie.
Aussi étonnant que cela paraisse, après quelques dizaines d'années, voici le premier monument érigé à la mémoire du capitaine Dreyfus, c'est l'image du jour.
Mais derrière cette image du jour se cache une vraie polémique.
Œuvre du dessinateur et sculpteur Tim, cette statue terminée depuis mars 86, attendait patiemment dans un hangar qu'on lui trouve un emplacement. Il avait d'abord été question du Champ de Mars face à l'école militaire, puis de la place Dauphine face à la cour de cassation qui avait réhabilité Dreyfus après sa condamnation. Mais faute de consensus, les choses ont traîné jusqu'à ces derniers jours.
Vous le savez, il y a eu une statue de Dreyfus qui a été commandée à Tim. Et cette statue aurait dû être installée, en principe, dans la cour de l'école militaire, à l'endroit où, justement, Dreyfus avait été dégradé, un peu en sorte de lieu de mémoire et de rappel de cet événement fâcheux.
Christophe Charles, historien.
Et il y a eu, évidemment, une mobilisation au sein de l'armée qui n'était pas du tout favorable à cette installation dans cet endroit stratégique. Donc, on voit bien qu'il y a encore des réticences dans certains espaces sociaux face au rappel de ces événements. Et cet épisode de cette statue déplacée, je pense, est assez significatif du fait qu'il y a toujours des choses compliquées à rappeler dans cette affaire.
Qu'est-ce que vous en pensez de cette polémique, du bruit fait autour de cette statue ?
Je m'en félicite.
Interview du sculpteur Tim, 1985.
Justement que l'école militaire refuse ce symbole, c'est important.
Qui l'école militaire ? L'école n'est pas une personne. Puis, vous savez, les chefs d'état-major passent, la République reste. Et c'est un combat qui ne s'arrêtera jamais. Donc, un jour, il sera à l'école militaire. Pour que les jeunes aspirants officiers apprennent que de revêtir l'uniforme, on ne devient pas seulement un outil de la défense, mais on reste citoyen et on reste un homme intègre.
Au milieu des années 1980, l'armée française n'était pas prête à honorer la mémoire de Dreyfus. Et la statue de Tim fut reléguée aux Tuileries, dissimulée dans les jardins. Une controverse vite classée. Et puis, 10 ans plus tard, en janvier 1994, le service historique de l'armée de terre génère à nouveau une polémique avec un article où il est écrit que l'innocence de Dreyfus et la thèse généralement admise par les historiens. Traduction, il est peut-être coupable, inadmissible.
L'affaire Dreyfus refait parler d'elle. Le ministre de la Défense, François Léotard, vient de limoger le chef du service historique de l'armée de terre, le colonel Paul Gaujac, pour avoir laissé paraître dans l'hebdomadaire Sirpa Actualité un article très tendancieux sur l'affaire Dreyfus. L'article remettait en question l'innocence du capitaine Dreyfus, condamné dans les circonstances que l'on sait il y a maintenant un siècle.
Après ce tollé, c'est Jacques Chirac, maire de Paris, qui décide enfin, le 16 octobre 1994, de déplacer la statue de Dreyfus au cœur de Paris, sur le boulevard Raspail, à quelques mètres de la prison du Cherche-Midi, là où le capitaine avait été enfermé au tout début de l'affaire. Puis, devenu président de la République, Jacques Chirac prend soin de la mémoire dreyfusarde et prononce un discours nécessaire, le 12 juillet 2006. L'historien Vincent Duclerc.
Puis en 2006, il préside une cérémonie extrêmement forte dans la grande cour de l'école militaire. Le jour même du centenaire de la réhabilitation.
Le 12 juillet 1906, il y a 100 ans, jour pour jour, la cour de cassation rend son arrêt. Après avoir conclu comme vous venez de l'entendre, que de l'accusation portée contre Dreyfus, rien ne reste debout. Elle annule la décision du Conseil de guerre de Rennes. Réhabilitant Dreyfus, elle se place sur le terrain des principes, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les règles fondamentales du droit naturel, le primat des droits individuels sur la raison d'État.
Il y a là des détachements de nombreux régiments, des élèves de l'école polytechnique en grand uniforme, le premier président de la Cour de cassation qui lit l'intégralité de l'arrêt, donc du 12 juillet 1906, et le président Chirac qui prononce un discours extrêmement important parce que c'est un discours qui vraiment ancre l'affaire Dreyfus dans la République, montre que sans l'affaire Dreyfus, la République n'aurait pas eu finalement les valeurs qu'elle a aujourd'hui et que ces valeurs, ce sont aussi celles du capitaine Dreyfus. C'est-à-dire que finalement, plus on intègre le capitaine Dreyfus dans l'histoire de l'affaire Dreyfus, plus on reconnaît finalement l'importance de l'affaire pour la République.
La réhabilitation de Dreyfus, c'est la victoire de la République. C'est la victoire de l'unité de la France. Le refus du racisme et de l'antisémitisme. La défense des droits de l'homme. La primauté de la justice, toutes ces valeurs font aujourd'hui partie de notre héritage. Elles peuvent nous sembler acquises, mais il nous faut être toujours extrêmement vigilants. Le combat contre les forces obscures, l'injustice, l'intolérance, la haine, n'est jamais définitivement gagné.
Cette cérémonie nationale en 2006 fut cruciale pour la mémoire dreyfusarde. Mais sachez tout de même qu'elle a été pensée pour se substituer à une panthéonisation d'Alfred Dreyfus qui fut sérieusement envisagée avant d'être abandonnée.
Alors, cette démarche, donc, c'était un enjeu fort que le président Chirac a reconnu, hein, tout à fait. Il était favorable à cette panthéonisation, mais cette panthéonisation a suscité toute une série d'objections et même de controverses assez vives. On a invoqué le statut de victime de Dreyfus. Alors, le Panthéon n'accueille pas des victimes, donc il y avait aussi, je veux dire, cette vision très, finalement, très restrictive du héros civique. Dreyfus n'est pas une victime. Dreyfus, au contraire, résiste à une situation qui, certes, le rend victime, mais le fait même de refuser son sort témoigne bien de sa volonté de sortir effectivement de ce statut de victime. Un autre argument qui faisait peur, qui était que cette panthéonisation allait réveiller l'antisémitisme. Et précisément, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est que la panthéonisation permettait de démasquer précisément les antisémites et de mieux les combattre. Et que craindre la réveil d'antisémitisme en soulignant les mérites d'un juif, c'était entrer dans la logique, finalement, que les antisémites imposent à leurs victimes.
Je crois que faire entrer le capitaine Dreyfus au Panthéon aurait eu une valeur de message vers les nouvelles générations.
Jack Lang, 2006.
Oui, un État républicain peut commettre de graves injustices. Il faut par conséquent prendre des précautions et organiser des contre-pouvoirs. Oui, un homme qui croit à son innocence peut par son courage réussir à vaincre l'injustice.
Dreyfus a certes fait face à son destin, mais il ne l'a pas choisi. Tels sont les arguments de ceux qui pensent que l'hommage officiel d'aujourd'hui était la bonne solution, car d'autres acteurs de l'affaire Dreyfus reposent déjà au Panthéon.
70 ans après sa mort, donc, les polémiques ont continué d'entraver le chemin du capitaine vers le firmament républicain.
Jacques Chirac a considéré que le consensus n'était pas réuni pour qu'il y ait panthéonisation, mais il a souhaité organiser cette grande cérémonie qui, d'une certaine manière, valait une panthéonisation. Les institutions n'étaient pas très à l'aise, hein, mis à part donc la présidente de la République, hein, qu'il faut saluer, parce que il y a toujours l'idée, et c'est une idée extrêmement fausse et pernicieuse, que l'affaire Dreyfus est une affaire qui a fait du mal à la France, et que donc Dreyfus étant le premier responsable, selon ses propagandistes, hein, de l'affaire Dreyfus, eh bien, il faut absolument écarter Dreyfus, qui ne mérite absolument pas le Panthéon. Or, précisément, l'affaire Dreyfus a fait un bien immense à la France en montrant justement les dangers qui pèsent sur une démocratie républicaine, en montrant le courage civique de tous ces Dreyfusards, en montrant que l'éducation peut permettre de vaincre l'antisémitisme, toute une série d'éléments. Donc s'il n'y avait pas eu l'affaire Dreyfus, la France ne serait pas là où elle en est, c'est-à-dire quand même avec un socle démocratique, un socle fraternel réel.
Par ailleurs, même après sa mort, l'image du capitaine Dreyfus, médiée parfois par sa propre famille, n'a jamais correspondu à l'archétype du héros humain.
Pierre Dreyfus dans « Souvenirs du capitaine Alfred Dreyfus ». Mon père, qui par nature n'était pas d'un caractère très expansif, avait été marqué encore par 5 années de torture et de solitude absolue et s'était concentré sur lui-même. Il vivait une vie intérieure intense, mais ne savait plus guère extérioriser ses sentiments. Il avait perdu l'habitude de les exprimer. Et comme par ailleurs il répugnait à se plaindre, à exposer en public ses souffrances, il paraissait très froid, très distant à ceux qui le connaissaient peu.
Souvenir de Germaine Franck, nièce d'Alfred Dreyfus, 1994.
Il avait plus de dents. Comme il était revenu avec des cheveux tout blancs et sans dents, et qu'il avait perdu 30 kilos là-bas à l'île du Diable. Vous pensez bien qu'au point de vue santé, c'était pas formidable. Alors, il nous donnait un peu l'impression d'un vieillard alors qu'il ne l'était pas.
Parler d'Alfred Dreyfus, c'est souligner que l'affaire n'est pas aussi héroïque et aussi pure qu'elle n'apparaît aux yeux des Dreyfusards. C'est-à-dire que Dreyfus est finalement dérangeant, d'une certaine manière, pour une mémoire héroïque de l'affaire qui convient mieux, en fait, au personnage de Zola. C'est pour ça que, finalement, on va opposer Zola à Dreyfus alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Mais Dreyfus dérange parce que Dreyfus est au plus près de l'histoire, est au plus près de la vérité historique. Il est nécessaire que, pour qu'il y ait un mythe Dreyfusard qui se développe, eh bien, ce mythe soit sans tâche. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est son obstination à rechercher la justice apparaît comme dégradant, y compris chez les Dreyfusards. Et donc, on va avoir des textes, d'abord ceux de Charles Péguy, de Laborie, de Clémenceau, puis, malheureusement, il faut le reconnaître, en 1935, à la mort du capitaine Dreyfus, eh bien, ce très beau texte de Léon Blum, « Souvenir sur l'affaire », mais dans « Souvenir sur l'affaire », Léon Blum explique, et c'est totalement faux, que si Dreyfus n'avait pas été Dreyfus, il aurait été anti-Dreyfusard parce que militaire borné.
Léon Blum, dans « Souvenir sur l'affaire », 1935. Sa grandeur militaire était faite de servitude. Vraiment, Dreyfus n'avait nulle affinité avec son affaire, nulle vocation pour le rôle dont le chargeait un caprice de l'histoire. S'il n'avait pas été Dreyfus, aurait-il même été Dreyfusard ?
Tout montre que, effectivement, c'est inexact. Et que cette manière de présenter les choses est très dépréciative. Elle souligne aussi, d'une certaine manière, que, finalement, un juif ne peut pas être un héros, ne peut pas avoir de grands combats comme des Français qui n'auraient pas cette origine. Et c'est très incompréhensible de la part de Blum. Mais Blum, là, règle aussi des comptes avec, finalement, le milieu israélite. Mais il le fait à tort et en dégradant la vérité historique.
Résumons. Après la Seconde Guerre mondiale, Alfred Dreyfus a été victime d'un double mouvement qui a terni son aura. D'abord, on a longtemps redouté de réactiver les polémiques liées à l'affaire. Et donc, par exemple, on a préféré reléguer la statue de Dreyfus aux Tuileries. Ensuite, pendant des décennies, on a considéré à tort que le capitaine était un officier falot, voire ennuyeux, dans son obstination à chercher la vérité, sans jamais jouer sur les sentiments.
Il a l'air d'un marchand de crayons. Le crime de forfaiture est le plus grave qui soit dans une démocratie. Tout l'univers a entendu ses paroles. Il avait le droit de dépasser la mesure. Il devait la dépasser.
Entre 1945 et 1994, il y a une volonté de ne pas parler de l'affaire et en tout cas, surtout, de ne pas parler du capitaine Dreyfus.
Mais à partir de 1994, les choses commencent à évoluer. Et durant cette année pivot dans la mémoire de Dreyfus, la télévision française produit et diffuse une fiction au budget conséquent.
France 2, associée à d'autres télévisions européennes, tourne actuellement un téléfilm intitulé Dreyfus. Hier, on tournait la scène de la dégradation du capitaine Dreyfus, plus d'un siècle après, exactement au même endroit, dans la cour des Invalides à Paris. Reportage Marie-Hélène Bonneau, Jean Cornu.
1895, le verdict tombe pour Alfred Dreyfus.
Coupable d'intelligence avec l'ennemi et de haute trahison. Je suis innocent !
Thierry Frémont incarne le capitaine Dreyfus sous la direction d'Yves Boisset. Pour cette scène, il fallait respecter scrupuleusement le cérémonial militaire. 500 hommes du contingent, 60 chevaux et la garde républicaine ont été mobilisés dans la cour de l'école militaire.
C'est tout à l'honneur de l'armée actuelle,
Yves Boisset,
d'avoir non seulement toléré qu'on tourne le film, mais d'avoir prêté son concours au film pour réparer ce qui est indubitablement une erreur judiciaire un siècle après.
Et en 2006, il y a vraiment le rapprochement à la fois de la mémoire de Dreyfus et de la mémoire de l'affaire. Et les deux, je veux dire, se soutiennent et permettent à ce que l'héritage soit complet, soit lisible, soit compréhensible par le grand public, par nos concitoyens. Mais il reste beaucoup effectivement à faire, je crois, notamment du côté des institutions qui continuent, je veux dire, à se méfier quand même du capitaine Dreyfus. Bon, les institutions considèrent bien sûr qu'il est innocent. Mais de là à en faire un modèle d'officier, un modèle d'agent de l'État, un modèle citoyen, c'est pas acquis. Et moi, je pense qu'il y a encore un combat au sein des armées, c'est de faire en sorte que les officiers d'aujourd'hui reconnaissent le professionnalisme, le courage militaire, l'intelligence militaire du capitaine Dreyfus. Dreyfus était polytechnicien, mais je veux dire, il était d'abord officier. Donc, pourquoi ne pas imaginer une promotion de Saint-Cyr qui s'appelle capitaine Dreyfus, une promotion de l'ENA, donc capitaine Dreyfus, que le nom de Dreyfus soit davantage visible parce que c'est à la fois un grand Français, je veux dire un grand officier, un combattant de la justice et un homme doté de sensibilité et d'intelligence. Et je crois que on a là effectivement une figure de notre temps.
Non,
Alfred Dreyfus.
Parlez plus fort.
Alfred Dreyfus.
Vous pensez sérieusement qu'une promotion de Saint-Cyr pourrait s'appeler capitaine Dreyfus ?
Mais oui, dans la mesure où c'est extrêmement logique. L'armée française recherche l'excellence notamment du commandement. Or, Dreyfus a prouvé qu'il était un excellent officier, un officier patriote qui a toujours cru dans les institutions, dans, je veux dire, la capacité de la France démocratique à lui reconnaître l'innocence. Il a voué son existence à l'armée, il a fait des études extrêmement importantes, il a fait toute la Première Guerre mondiale. Il a, pendant plusieurs années, tenu les chroniques d'histoire militaire pour la revue historique. Donc c'est l'exemple même de l'officier intellectuel tel que les armées le rêvent aujourd'hui et d'un officier physiquement courageux. Donc la logique voudrait, oui, qu'il y ait effectivement ce choix qui aurait beaucoup de symboles de mon point de vue.
Alors, voulez-vous mon avis ? Je trouve que le capitaine Dreyfus aurait dû se considérer comme un service commandé. Coupable ou innocent, il devait se laisser condamner en silence pour sauver l'armée française. Après tout, un soldat est fait pour se sacrifier.
Alors, 130 ans après l'affaire, l'armée française est-elle vraiment prête à mettre en avant la figure de l'officier Dreyfus ?
Je pense que l'armée est prête à partir du moment où on lui explique effectivement ce qu'est le capitaine Dreyfus. C'est au fond assez simple. Et c'est pour cela que nous faisons avec Philippe Auriol, avec d'autres historiennes et historiens, ces travaux sur le capitaine Dreyfus, ces travaux sur la République et les institutions, pour expliquer que précisément ce sont ces hommes et ces femmes-là qui ont assuré la survie de la France dans des moments périlleux. Et c'est la compétence, c'est le patriotisme qui fait qu'on a eu effectivement une résistance, aussi une résistance française extrêmement articulée, que la France libre est un lieu aussi de grandes compétences. Hein.
Oui, il y a une filiation entre la cause dreyfusarde et la résistance française face à Vichy. Une conscience commune de défendre des valeurs républicaines.
Tout ça fait que si on veut effectivement avoir des modèles, parce qu'on a besoin de modèles dans nos sociétés, mais il faut des modèles vrais, des modèles que l'histoire établit, eh bien le capitaine Dreyfus en est un. Et ces états de service, comme on l'a dit, peuvent amener les armées à le reconnaître comme officier d'élite. C'est un grand officier. Et là, le combat est à mener.
France Inter, 1994.
Jean-Claude Petit, directeur de la rédaction de l'hebdomadaire La Vie, pour un sondage CSA La Vie, la Ligue des droits de l'homme et France Inter, qui montre que 68% des sondés estiment donc que les leçons de l'affaire Dreyfus sont toujours d'actualité. C'est tout de même un chiffre important,
110%. Une toute petite indication encore à propos de ce sondage, c'est que les Français aimeraient bien savoir plus sur l'affaire Dreyfus. C'est tout de même curieux,
sûr,
ça,
oui, tout à fait.
Près de 100 ans après.
Oui, parce que je pense qu'en l'école, on n'en parle pas assez, mais parce que nous-mêmes n'en parlons sans doute pas assez. Je veux dire, ça vous étonne vous-même ? Moi, ça ne m'étonne pas.
Je suis très étonné par ça, oui.
Ah oui ?
Il me semblait que chacun connaissait au moins les tenants et les aboutissants de l'affaire Dreyfus. Alors, on va continuer à en parler.
Il faut...
Dans l'héritage de l'affaire Dreyfus, il faut aussi prendre le temps de sonder l'impact de cet événement sur l'histoire du socialisme français. D'abord, certains historiens comme Bertrand Joly affirment qu'il y a une usurpation à gauche à propos de l'affaire Dreyfus.
La gauche a longtemps cru et croit encore, à mon avis, beaucoup, qu'elle a été dreyfusarde et que la droite l'a été anti-dreyfusarde, ce qui est une erreur. la gauche a été tout aussi anti-Dreyfusarde que les autres. Et d'ailleurs, Clémenceau l'a dit, je le cite, « tous les partis furent de la débâcle morale », c'est ça qui veut dire. Donc, la gauche a gagné politiquement l'affaire Dreyfus, elle est sortie vainqueur politique, et elle s'est attribuée la victoire morale qu'elle usurpe. Mais elle a été aidée dans cette stratégie par l'Action française, qui n'a pas arrêté de dire « l'affaire Dreyfus a été un complot de la gauche pour éliminer les modérés du pouvoir et prendre leur place ». Et donc, la gauche a été le grand vainqueur, c'est elle qui a fait l'affaire Dreyfus. Comment reprocher à la gauche d'avoir accepté ce cadeau qu'on lui fait, le rôle du gentil dans la bagarre? Elle l'a accepté, elle n'y avait pas droit, mais bon, c'était comme ça.
On sait que la gauche...
Lionel Jospin à l'Assemblée nationale.
On sait que la gauche...
1998.
On sait que la gauche était Dreyfusarde et on sait que la droite était anti-Dreyfusarde.
Alors à ce moment-là, Élise Carlin, la droite se lève comme un seul homme et on a bien l'impression qu'on va en venir aux mains.
Oui, ils en ont parlé, raillé à l'époque les humoristes au moment de l'affaire Dreyfus en dessinant des scènes de bagarre généralisées. Eh bien, un siècle plus tard, ils en parlent encore et toujours aussi violemment. Les huissiers ont dû faire barrage de leur corps pour protéger un Premier ministre conspué à moins d'un mètre par une opposition indignée. L'UDF Christine Boutin le giflait à distance. Plusieurs députés RPR retenaient Pierre Mazeaud, apparemment foudrage, qui brandissait le poing en scandant « démission », bientôt repris par toute la droite. Tous dénoncent une impardonnable faute.
Écoutons maintenant le point de vue de l'académicien Pascal Horry sur le rôle de l'affaire Dreyfus dans l'imaginaire de la gauche française.
Comme l'affaire Dreyfus apparaît comme ayant mené le bon combat d'un point de vue éthique pour un innocent, on est quasiment dans une pensée religieuse. Donc, il est évident qu'il y a une dimension éthique qui permet des ressourcements incessants. On peut toujours dire la gauche a été du bon côté pour défendre un innocent. N'oublions pas qu'une partie de la gauche disait le contraire. On ne peut pas être du côté d'un officier qui tire sur les ouvriers. Hein, c'est ça la contre-version.
Et l'affaire Dreyfus, qu'est-ce qu'on en dit chez vous?
Le parti n'a pas à se mêler de cette triste mésaventure d'un officier bourgeois.
Donc, oui, dans la mythologie, et quand je dis mythologie, ce n'est pas péjoratif, tous les systèmes politiques, toutes les forces politiques sans exception, à travers le monde, fonctionnent sur des systèmes de mythes, qui sont des histoires que se raconte le groupe, pour se conforter, pour justifier son existence, son évolution, etc. Donc, les mythologies sont indispensables à toutes les institutions sociales. Eh bien, dans la mythologie, disons, de la gauche, on peut dire que l'affaire Dreyfus, qui a l'avantage aussi de se situer avant la fracture entre socialistes et communistes, bref, c'est excellent pour la mythologie de la gauche. Rien de plus normal que cette mythification, car toutes les familles politiques, de l'extrême droite à l'extrême gauche, à toutes les époques dans tous les pays, ont eu besoin de construire des récits. Nous nous racontons des histoires qui deviennent éventuellement une histoire avec un grand H, et disons qu'on touche à l'essentiel des sociétés humaines.
Alors, en effet, il y a peut-être eu une mythification à gauche au sujet de cette affaire Dreyfus. Mais il existe aussi un lien bien réel entre socialisme et dreyfusisme, avec des conséquences fondamentales pour les socialistes français.
Ce que fait l'affaire Dreyfus pour les socialistes, c'est qu'elle recoue le lien entre mouvement socialiste et république.
Milo Lévy-Brul, historien.
Mais en fait, ce lien, il était vraiment abîmé. Pour plusieurs raisons, pour des raisons historiques. Les mouvements républicains ont, que ce soit en juin 48 ou pendant la Commune, massacré les ouvriers, les militants socialistes.
Là, les canons, ils vont donner l'assaut. À la barricade !
Du coup, il y a un rapport à la République bourgeoise qui est très conflictuel. Le fait que, dans toute une partie des théories socialistes, les droits de l'homme et le libéralisme politique sont critiqués, c'est la critique des droits formels. C'est-à-dire, en fait, c'est des droits dont ne jouissent que les bourgeois. Parce que quand vous êtes menacé par votre patron, si vous votez pas comme il faut, vous avez pas de droits politiques. Quand vous êtes à l'usine à 8 ans, vous avez pas de liberté de conscience. Ça veut rien dire.
Il y a longtemps que vous travaillez à la mine ?
Je suis descendu, j'avais pas 8 ans. Puis tenez, j'en ai 58 maintenant. Calculé.
C'est pas du sang?
Non, c'est du charbon, ça. J'en ai dans la carcasse de quoi me chauffer jusqu'à la fin de mes jours.
Donc, Voilà, la critique des droits formels fait que le patrimoine politique de la République et du libéralisme politique est vu avec beaucoup de distance par les socialistes. Et puis, une dimension qui, à mon sens, est la plus importante et qu'on a totalement oubliée, c'est que le socialisme de l'époque, c'est pas un mouvement de représentation politique. Le socialisme, c'est l'organisation de la société. Il a une classe sociale dont il considère, au regard de sa théorie du capitalisme, qu'elle a vocation à être majoritaire parce que le phénomène de paupérisation fait qu'il y aura de plus en plus de prolétaires. Et donc son enjeu, c'est de faire de la propagande, du recrutement au sein de ce prolétariat pour l'organiser, pour construire dès aujourd'hui les institutions, les partis, les syndicats, les mutuelles, les coopératives, etc., qui seront les supports de la société de demain.
Il n'y a rien de changé. Il ne peut rien y avoir de changé dans la société actuelle tant que la propriété capitaliste n'aura pas été supprimée, tant qu'elle n'aura pas fait place à la propriété sociale, c'est-à-dire à votre propriété, à vous. Nous détourner de cette lutte, camarades, c'est trahir, c'est déserter, c'est faire le jeu des bourgeois d'aujourd'hui.
Récapitulons, c'est important. Avant l'affaire Dreyfus, le socialisme français se tient loin de la République bourgeoise. Il s'en méfie, voire il combat la République parce qu'elle réprime la classe ouvrière.
Prolétariat uni, en bloc ! Contre la bourgeoisie, en bloc !
Et ce que fait l'affaire Dreyfus, c'est qu'elle recoue le lien entre la République et une partie des socialistes. Alors certes, à la fin du XIXe siècle, le socialisme français continue de se concevoir comme un mouvement d'organisation du prolétariat. Mais après l'affaire Dreyfus, il comprend deux choses.
D'une part que l'intervention dans les institutions bourgeoises peut être un support à une meilleure organisation du prolétariat, aussi avec l'idée que peut-être en gagnant des municipalités, en ayant une influence sur le Parlement, on va pouvoir améliorer la condition ouvrière, mais pas juste pour améliorer la condition ouvrière, en tant que telle, pour permettre une plus forte organisation du prolétariat.
La République nous a donné une arme, le suffrage universel. Il faut nous en servir. Il faut éduquer le peuple, il faut l'organiser, il faut le conduire vers les responsabilités politiques, sans jamais détourner notre regard de l'objectif à atteindre, transformer la société.
Et le deuxième aspect, c'est la critique des droits formels, la critique de l'idéologie des droits formels, qui est ce qu'écrit Jaurès dans les premiers chapitres des Preuves, donc son grand livre Dreyfusard, c'est-à-dire l'idée que, toute insuffisante qu'elle soit, la bourgeoisie a un capital politique qu'il faut préserver quand il est menacé par pire. Et donc Jaurès s'engage en défense de Dreyfus, au nom de la défense des droits de l'homme, parce qu'il dit « les droits de l'homme », c'est son expression, c'est la part humaine de la société bourgeoise capitaliste. Et en fait, cette part humaine-là, les socialistes ont vocation à la prolonger, à faire en sorte que tout le monde en profite. Et donc, à ce titre-là, la préservation du libéralisme politique, des droits de l'homme, etc., importe pour les socialistes. C'est pour ça que l'affaire Dreyfus est importante pour l'histoire du socialisme.
Donc, ayez en tête que l'affaire Dreyfus a réintégré les socialistes français dans la République, au sein même des institutions républicaines. Notamment en participant au jeu de la démocratie représentative, c'est-à-dire gagner des élections, avec l'ambition de mener ensuite une politique de justice sociale. Ça éclaire toute l'histoire du socialisme au XXe siècle. Par ailleurs, on a souvent l'impression que cette affaire Dreyfus fut le terrain d'affrontements violents entre deux camps, les progressistes contre les réactionnaires. Or, en réalité, c'est un peu plus complexe.
Il y a cette idée que depuis la révolution de 1789, en fait, la France est travaillée entre deux principes, pro-révolutionnaire, contre-révolutionnaire, et que c'est cette opposition-là qu'on retrouve au moment de l'affaire Dreyfus. Or, au moment de l'affaire Dreyfus, c'est pas du tout ça qui se joue. Et en fait, ce qui se joue, c'est une relation à trois termes entre bourgeoisie libérale héritière de la Révolution qui est hégémonique, classe persistante d'anciens régimes contre-révolutionnaires qui sont minoritaires, influentes mais minoritaires, Et puis, mouvement socialiste, en très forte dynamique, qui lui critique le libéralisme politique, mais pas du tout avec les arguments des classes d'Ancien Régime, en disant « c'est insuffisant, pas c'est trop ». Et ce que fait l'affaire Dreyfus, c'est qu'elle manifeste le fait que le centre, disons, la bourgeoisie libérale qui a détruit les structures d'Ancien Régime, se retrouve incapable d'édifier une société nouvelle, et que dans ce contexte-là, elle est balancée entre alliance rétrograde ou alliance progressiste avec les socialistes. Et en fait, l'affaire Dreyfus, c'est Peggy qui le dit, c'est le moment de l'aiguillage, c'est-à-dire on ne sait pas de quel côté la France va tomber.
Le gouvernement souhaite l'apaisement.
Mais l'apaisement ne saurait être que dans la vérité et dans la justice.
Nous avons peur de la montée des passions.
Nous qui attendions tant de votre gouvernement, le Val des Crousseaux. Vous vous dites républicain, socialiste même, et vous êtes comme tous les gouvernements réactionnaires qui vous ont précédé. Vous avez peur de changer la société. Vous avez peur de porter la hache dans la pourriture du corps social.
Ce qui est décisif, c'est ce que moi j'appelle cette alliance interclassiste entre bourgeoisie libérale qui ne tombe pas dans l'alliance avec les rétrogrades, ce que font les anti-Dreyfusards, c'est ça, et socialisme qui comprend, qui doit venir en soutien des républicains libéraux pour les empêcher de tomber dans cette alliance. Voilà, donc on n'est pas du tout dans cette logique des deux France, on est dans une logique davantage à trois termes, et je pense que c'est la bonne manière, déjà historiographique, de comprendre ce qui se passe, mais aussi que c'est plus utile, disons, d'un point de vue de l'évocation mémorielle, pour comprendre, en l'occurrence, même notre situation politique la plus contemporaine.
En effet, cette relation à trois termes, bourgeoisie libérale, force réactionnaire et mouvement socialiste, fait écho à notre vie politique contemporaine. Enfin, l'héritage de l'affaire Dreyfus, c'est aussi une certaine idée de la nation, à double titre.
On évoque l'affaire Dreyfus comme un moment où, après la défaillance, est venue la réaffirmation aux yeux du monde que la France savait être à la hauteur du message universel qu'elle prétend incarner de défense des droits de l'homme. Deuxième élément, qui je pense est très important aujourd'hui, c'est qu'une nation ou un collectif politique en général se grandit quand il répare ses erreurs. C'est le grand argument des anti-Dreyfusards, en fait. C'est-à-dire, à partir du moment où tout le monde sait que Dreyfus est innocent, l'argument des anti-Dreyfusards, c'est de dire « d'accord, mais on ne peut pas l'innocenter parce que ça va fragiliser l'armée, ça va fragiliser la France aux yeux du monde, etc. »
Coupable ou innocent, il devait se laisser condamner en silence pour sauver l'armée française.
Et donc l'idée qu'en fait, reconnaître ses erreurs en tant que nation et les réparer, c'est pas du tout s'abaisser, mais au contraire, c'est se grandir. Ça, je pense que c'est un héritage, enfin, il faudrait que ce soit de l'affaire Dreyfus.
Nous approchons de la fin de cette série documentaire consacrée à la vie d'Alfred Dreyfus. Et une première question conclusive se pose. Que vaut l'affaire Dreyfus dans notre mémoire collective? L'historienne Perrine Simon-Naoum.
Alors elle vaut comme symbole. Donc l'affaire Dreyfus est restée, je crois pour le meilleur et pour le pire, une forme d'identité politique de la France. Ce qui n'a pas empêché l'épisode de Vichy. Ce qui a permis à certains de finalement se réclamer d'une continuité avec des thèmes antisémites jusqu'à aujourd'hui. Mais en même temps, il y a dans les symboles quelque chose de très précieux parce que ils éclairent, ils illuminent à la fois la vie politique mais aussi la vie individuelle et l'existence et la cohabitation des groupes sociaux. L'affaire Dreyfus demeure, je crois, à l'horizon de la vie politique républicaine comme un signal important, d'abord de la nécessité de ne jamais écraser l'individu sous le collectif, et de l'idée également que, si vous voulez, le collectif ne peut survivre que s'il correspond à la réaffirmation et au partage d'un certain nombre de valeurs.
Quelle vilaine affaire. Non, je n'aime pas la férocité des foules à meuter contre un seul homme. Il y a de l'antisémitisme là-dedans.
Et alors ? Je les hais. Depuis 20 siècles, ils pourrissent tout.
La perte des valeurs partagées préfigure toujours le délitement d'une société qui s'abîme dans une logique individualiste, xénophobe et féroce. Autre question de synthèse, en quoi l'affaire Dreyfus nous parle toujours au XXIe siècle ?
Eh bien, elle nous parle à travers les valeurs qui sont les valeurs fondamentales de la République et la démocratie, c'est-à-dire avant tout la vérité, l'idée de ne pas euphémiser la réalité, parce que une fois qu'on truque la réalité, eh bien, il n'y a plus de débat commun possible.
Nous avons des preuves irréfutables, une armoire pleine de preuves, tout un dossier secret.
Un dossier secret n'existe pas. Du point de vue juridique, les vraies preuves doivent être examinées en plein jour, contradictoirement, selon les normes de la justice républicaine.
Ensuite, je dirais l'engagement. L'engagement qui est à la fois celui des individus, mais celui d'un pays tout entier qui a fini par se reconnaître pour sa majorité dans ce combat pour les valeurs. Mais également, et ce sera une note un peu plus pessimiste, j'en parlais, la fragilité des démocraties et l'idée qu'elles reposent sur un socle fondamental qui peut toujours être bousculé. On le voit très bien à travers les populismes aujourd'hui, et que finalement, le rapport de la République, le rapport de la démocratie au peuple, je crois, ne peut jamais être totalement direct, mais toujours médié par des institutions.
Par ailleurs, gardez à l'esprit que la mémoire anti-Dreyfusarde persiste dans les sociétés occidentales.
Au-delà de la mémoire anti-Dreyfusarde, c'est encore une fois chez les ennemis de la République et de la démocratie le fait d'agiter toujours l'ombre, la possibilité d'un complot. L'idée qu'on retrouve chez les populismes, de droite comme de gauche, que le peuple n'est pas représenté, que le peuple est trahi par ceux qui se prétendent ses représentants, et que finalement, c'est une manière de dévoyer, je dirais, les valeurs de justice et de vérité.
Alors, autre précision, l'internationale juive, c'est qui ?
Jean-Marie Le Pen, 1989.
C'est, écoutez, les internationales juives, il y en a plusieurs, il y a le Congrès juif mondial, il y a le Fonds mondial
juif. C'est eux que vous visez.
Il y a des organisations qui sont diasporiques, si vous voulez, qui ont par nature une vocation internationale et par là même ne partagent pas les mêmes intérêts que les gens qui, en Allemagne, en France ou en Israël, défendent des intérêts nationaux.
Il y a un lobby juif en France ?
Je ne sais pas s'il y a un lobby juif, mais en tout cas, il y a des réactions qui semblent quand même relativement orchestrées. Que ce soit délibérément ou par sympathie naturelle, on peut constater que quand il y a des campagnes, moi j'ai été l'objet de campagnes, et de toute évidence, on voit les gens qui ont une sensibilité liée à l'établissement juif ont, à mon égard, une attitude d'hostilité systématique. Je le constate et le déplore.
Vous l'avez pas un peu provoqué ?
Je ne le crois pas.
Alors, pour quelle raison la mémoire anti-Dreyfusarde demeure-t-elle active au XXIe siècle ?
Elle l'est parce que il y a ce fond antisémite qui est toujours à l'œuvre.
Vincent Duclerc.
Et qui n'accordera rien aux Juifs de positif, hein, et qui les ramènera toujours vers, je veux dire, ces schémas diaboliques et complotistes de la trahison, de l'absence de patrie. Donc ça, c'est un premier point, hein, et c'est quelque chose qui demeure et qui, on le voit, s'amplifie. C'est aussi Dreyfus est le symbole quand même d'une victoire républicaine, d'un élargissement des libertés, parce que les Dreyfusards vont ensuite aller questionner la persécution des indigènes. Les Dreyfusards vont permettre aux femmes, hein, précisément, parce que les femmes sont mobilisées dans l'affaire Dreyfus, hein, à travers notamment le journal La Fronde. Donc, en fait, c'est un moment de liberté considérable, et ça, pour un courant conservateur réactionnaire, c'est insupportable. Donc, on s'attaque à Dreyfus parce que c'est, je dirais, le maillon faible, d'une certaine manière, parce que contesté aussi par les Dreyfusards, le maillon faible de l'affaire Dreyfus. Et derrière les attaques contre Dreyfus, c'est la volonté d'en finir avec une France démocratique, une France fraternelle, avec une France des libertés, une France qui se préoccupe aussi de la souffrance des autres, qui se préoccupe des autres. Nous-mêmes, effectivement, à plusieurs, on a riposté aux propos totalement faux, hein, et complotistes d'Éric Zemmour, hein, lors de la dernière présidentielle, sur Dreyfus. Hein. Donc l'idée que on considère qu'il est innocent, mais que sa culpabilité, c'est d'avoir créé, cette mise en question quand même d'une France très conservatrice. Et c'était effectivement, je crois, le point important, c'est que l'affaire Dreyfus a bousculé les hiérarchies, a permis à des groupes sociaux d'accéder à la liberté, de croire, d'avoir un avenir, et pas seulement en France. Hein. L'impact du combat pour Dreyfus en Europe centrale et orientale, dans tous les pays du monde, a été considérable, parce que, pour la première fois, d'une certaine manière, une partie d'un pays aussi prestigieux que la France, eh bien, prenait la défense d'un paria. Et ça, c'est considérable. Je pense que cet héritage-là, il doit être toujours rappelé.
Journal de déportation d'Alfred Dreyfus, jeudi 4 juillet 1895. Le coupable n'est pas découvert. Mais je ne lâcherai pas pied. Il faut que j'insuffle l'énergie à ma femme. Je veux l'honneur de mon nom, de mes enfants.
Je pense que la République apprend avec Dreyfus qu'il ne faut jamais renoncer, hein, que tous les combats justes doivent être menés et qu'ensuite il faut en faire l'histoire. L'affaire Dreyfus, c'est pas seulement la défense d'un juif, c'est la défense d'un juif victime de l'antisémitisme. Donc ça veut dire que c'est la défense d'un persécuté. Et comprendre la persécution, c'est suivre l'histoire de l'affaire Dreyfus.
Vous pensez qu'on l'a traité différemment parce qu'il était juif ?
Voyons, Edmond, évidemment. En tant qu'avocat, je peux te dire qu'à aucun officier catholique, on aurait refusé de cette façon une procédure régulière.
Enfin, sachez que l'affaire Dreyfus demeure aussi et avant tout une mise en garde. Une vigie contre des menaces sourdes.
Vous savez, la sociologue Dominique Schnapper a l'habitude de dire que l'un des signes avant-coureurs de la mise en cause de la République, c'est la manière dont la situation des Juifs dans une société est mise en cause. Eh bien là, ce qui me paraît inédit, c'est qu'on assiste à un renversement, c'est-à-dire que c'est la mise en cause de la République qui fait que la situation des Juifs apparaît aujourd'hui très fragilisée en France.
Alors, je vais vous demander une chose.
Manifestation de l'Action française, mai 2023.
C'est de faire entendre votre voix dans les rues parisiennes, comme l'ont fait nos anciens et comme nous le ferons dans le futur. Merci à tous et à tout de suite. Et vive le roi !
Pour terminer, Perrine Simon-Naoum, notre série s'intitule Alfred Dreyfus, le combat de la République. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Eh bien que le combat des Juifs et le combat de la République est le même combat. Et donc qu'il faut absolument aujourd'hui comprendre que lorsque les Juifs sont attaqués dans nos sociétés, en réalité ce sont les institutions démocratiques et républicaines qui le sont. Et que finalement, on ne peut pas dissocier le sort des uns et des autres.
Confidence d'Alfred Dreyfus à son fils Pierre, peu avant sa mort. Je ne connais pas l'amertume, m'étant toujours élevé au-dessus de passions mesquines. J'ai cherché à comprendre comment ceux qui m'ont fait tant de mal, par orgueil de ne pas vouloir reconnaître une erreur, en étaient d'abord arrivés au mensonge, puis au crime. Mes pensées surtout sont allées à ces figures admirables, dont le courage était à la hauteur de la valeur morale, dont la conscience a dicté leur devoir. Ce sont elles qui me réconfortent, et j'aime à les évoquer dans mes longues heures de méditation.
Non.
Alfred Dreyfus.
Parlez plus fort.
Alfred Dreyfus.
Pour clore cette série consacrée à Alfred Dreyfus, que dire ? D'abord, retenez que l'affaire Dreyfus n'est pas une erreur judiciaire. Non, c'est une machination.
Un artilleur alsacien et...
Eh ?
Juif, mon général.
C'est un complot ourdi par les plus hautes autorités militaires qui cherchaient une victime idéale et qui n'ont jamais su reconnaître leur erreur alors qu'elles en ont eu l'occasion.
Le fait est que si vous ne dites rien, personne ne le saura jamais. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que j'emporte ce secret dans la tombe ? Bien sûr que si. Emporter des secrets dans la tombe, c'est l'essence même de notre profession.
On est souvent tenté de dire, en effet, que c'est une erreur judiciaire, alors que c'est une tâche infamante dans l'histoire de l'armée française. D'autant plus, face à cet officier modèle et patriote que fut Alfred Dreyfus.
Fils de cette Alsace si française, il est impossible que j'aie commis cette trahison. Je réaffirme donc que je suis innocent.
Ensuite, il faut lutter contre l'idée d'un capitaine Dreyfus falot et accablé par son sort. Et j'espère qu'à l'écoute de cette série, et notamment à travers les écrits de Dreyfus, vous aurez pris conscience qu'il fut un authentique héros civique, pétri de vérité et des valeurs républicaines.
J'ai confiance dans la justice de mon pays. Et j'ai confiance dans notre armée.
Pour finir, que nous enseigne cette affaire Dreyfus ? Eh bien que ces valeurs républicaines, que sont la dignité humaine, la justice et le progrès social, sont ancrées quelque part entre Jean Jaurès, Charles de Gaulle et Léon Blum, mais qu'elles ne seront jamais du côté de Charles Maurras, Philippe Pétain ou Jean-Marie Le Pen. La cause Dreyfusarde fut une lutte contre les réactionnaires et les passions tristes. C'est un combat qui n'est jamais gagné et qui demeure plus que jamais d'actualité. La République est fragile, c'est un subtil équilibre sur lequel il faut veiller. Je vais laisser les mots de la fin à une haute figure morale, à un fils de la République, à un homme qui appartient à cette lignée d'esprits éclairés qui font la grandeur de notre vieux pays. Voici Pierre Mendès France, en 1978, la voix de la sagesse et de la fraternité.
Dans l'intérêt du pays, de la nation tout entière, de sa force, de son unité, l'affaire Dreyfus et le rôle que cela a joué ont apporté quelque chose de plus à l'attachement d'un certain nombre de Français pour leur patrie, à partir du moment où ils ont senti que la vérité et la justice pouvaient l'emporter. En ce sens, quels qu'aient pu être les déchirements, car il y a eu des déchirements cruels, des divisions pénibles, cruelles, le bilan global, à l'issue de cette crise, la France est sortie plus pure, plus forte, plus sûre d'elle-même, plus unie. Et en ce sens, je pense que nous n'avons pas lieu de regretter que la France ait connu ce drame et qu'elle l'ait traversé.
Alfred Dreyfus, Le combat de la République. Un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Lecture, Éric Ruff et Clotilde de Bézère, sociétaire de la Comédie Française. Assistance éditoriale, Irène Menahem et Fanny Petit. Documentation sonore, Frédéric Martin. Mixage, Basile Bocquer, Baptiste Collion. Alfred Dreyfus, Le combat de la République est un podcast original de France Inter.